une perception effective. Il est évident ici que ce sont ces perceptions inférentielles qui sont propices à l'expression du sentiment de trac du héros. Et puis enfin, à côté de ces perceptions donc représentationnelles et inférentielles, qui ne permettent pas de faire une distinction nette entre perception et pensée, on a des formes de perception que je dirais quasiment, qu'on appelle expérientielles, parfois intentionnelles, parfois inintentionnelles, et donc qui renvoient à des objets du monde, et qui, là encore, évidemment, ça renvoie aux perceptions en caractère gras, dans l'exemple 4, sont elles-mêmes saturées cognitivement, puisque référer à tel procès par tel ou tel lexique, c'est catégoriser, dénommer. Donc au fond, la pensée s'exprime, les processus de pensée s'expriment avec ces trois catégories de verbes perceptifs. Et le point de vue aussi. Et le point de vue aussi, d'ailleurs, d'une manière économique ou pas économique. Et à partir de ce moment-là, il est évident qu'il est très difficile de prétendre faire une distinction entre point de vue et discours indirect libre. Alors, je crois que sur un plan sémantique, on peut dire qu'on rencontre, à l'instar des exemples 1 et 2, des cas où le discours indirect libre ne recourt pas à l'expression de perception et se limite à l'évocation de pensée ou de parole. En revanche, dans le cas du point de vue, qui est assez proche du discours indirect libre, il y a et des perceptions et des pensées, parce qu'il est impensable que le processus cognitif soit absent de la référenciation perceptuelle. Donc ça, c'était la deuxième hypothèse, au fond, qui plaide en faveur d'une relation très forte entre le point de vue et le discours indirect libre, et donc qui plaide en faveur d'une dimension polyphonique du point de vue, hein, comme phénomène narratif. On pourrait s'intéresser au point de vue dans d'autres contextes que le contexte narratif, bien évidemment. Mais quand on regarde, et ce sont tous les exemples numérotés de 6 à 17. Et je vous les laisse parcourir très rapidement, mais je vais les commenter pendant que vous les parcourez. Quand on regarde ces exemples 6 à 17, on s'aperçoit en réalité qu'un même contenu peut, au fond, sur le plan syntaxique, un même contenu de pensée, de parole, perceptuel, peut emprunter soit sur le plan syntaxique le rapport direct, ce sont les exemples 6 à 8, soit le rapport indirect, les exemples 9 à 11, soit le rapport indirect libre, soit dans les exemples 15 à 17, un rapport qui s'apparente à des sortes d'îlots textuels dans le discours du locuteur premier, et donc ça renvoie soit au discours narrativisé pour 15, au psychorécit, si l'on veut bien faire une distinction entre psychorécit et discours narrativisé, il n'y en a pas forcément. Moi j'en ferai une en disant tout simplement que discours narrativisé renvoie à des rapports de parole et psychorécit à des comptes rendus de pensée. Et puis ensuite, 17, un compte rendu narrativisé de perception, et c'est une forme qu'on a déjà vue antérieurement, c'est le point de vue embryonnaire. Alors en gros, je ne veux pas prendre le temps, je ne l'aurai pas, de commenter cela, mais je voudrais dire tout simplement que alors, ces exemples-ci plaident pour une troisième hypothèse, qui est celle à laquelle je me rallie aujourd'hui, alors que dans mes travaux de 98, j'établissais fortement une relation entre point de vue représenté et discours indirect libre. Je crois au fond, parce que je définis le point de vue comme un phénomène générique qui peut exprimer parfois des perceptions, parfois des pensées, passer par des paroles, parfois par des pensées, comme un phénomène générique, qui ensuite peut s'exprimer par des formes polyphoniques qui sont celles du discours rapporté classique, et donc de même qu'il y a des formes variées pour vous voyez, discours direct, indirect, indirect libre, on peut avoir ce même phénomène pour le point de vue. Et on pourrait aller plus loin, évidemment on peut rajouter le discours direct libre qui n'a pas la même valeur que, enfin, dans cette terminologie, bien sûr, libre n'a pas le même sens que dans le discours indirect libre. Mais au fond, on voit bien, avec l'exemple 8, que le jeu sur le choix de l'imparfait ou du présent va tirer telle forme vers le discours direct libre, l'autre vers le discours indirect libre, je vous l'avais déjà dit. Et donc ça, c'est quand même, c'est un ensemble qui renvoie au discours rapporté, représenté, conventionnel. Et en revanche, avec les formes 15, 16, 17, on est dans quelque chose qui est du dialogisme au-delà du discours rapporté conventionnel avec ces formes-ci. Et en tout cas, il me semble que l'intérêt de ce type de mise en perspective, de mise en rapport, c'est de montrer que, au fond, parfois le même contenu, on pourrait s'amuser, je me suis amusé à le faire, mais je ne vais pas mentionner là, le même contenu peut être exprimé parfois par un compte-rendu perceptif, à d'autres moments par un compte-rendu de parole, à d'autres moments par un compte-rendu de pensée. Tout simplement, c'est le même fait est analysé sous sa phase initiale, qui est souvent une phase perceptuelle, ou sous sa phase finale, qui est souvent une phase plus analytique, qui renvoie à des paroles ou à des pensées, selon les stratégies qu'on veut bien se donner au moment où on choisit d'écrire. Après, c'est un choix qui renvoie à des stratégies de scripteur. Voilà, donc en gros, pour conclure cet ensemble, je dirais que partie d'une représentation du point de vue comme phénomène représenté, j'ai rencontré d'autres manifestations du point de vue, telles qu'elles émergent dans les textes, qui sont des formes plus embryonnaires, c'est le point de vue raconté, et qui ont à voir avec formes conventionnelles du discours représenté, et en ce sens il me semble que ces travaux présentent l'intérêt de, sur le point de vue, de rajouter peut-être un petit chapitre supplémentaire aux nomenclatures sur le discours représenté ou le discours rapporté. En tout cas, c'est ce que je travaille beaucoup avec Laurence Rosier et avec l'équipe de CIDI. C'est en tout cas l'intérêt qu'ils ont bien voulu manifester pour ces travaux, c'est-à-dire effectivement une forme, dans le continuum, une forme nouvelle qui vient s'ajouter aux autres formes. Alors, dans le quart d'heure qui nous reste, je vais essayer de commenter rapidement quelques exemples en essayant de le faire en marquant ma différence avec la doxa narratologique habituelle. Alors, c'est peut-être pas très pertinent de marquer une différence par rapport à une doxa, mais c'est quand même important de se situer par rapport à cette doxa-là. Premièrement, si je reviens à mon schéma initial, il est clair que j'ai bien dégagé deux instances énonciatives qui peuvent prendre en charge un point de vue, deux, pas trois. Donc je crois que ça pose évidemment pour les cadres narratologiques traditionnels d'emblée la question de la focalisation externe. Je ne pense pas que la focalisation externe existe faute d'une instance énonciative pour cela, et il me semble que les exemples qui sont allégués par ceux qui tiennent pour la focalisation externe, j'ai essayé de le montrer dans mon premier livre et dans un article, ces exemples s'analysent tous en termes de point de vue ou du personnage ou du narrateur. Éventuellement peuvent considérer un objet de l'extérieur. Mais on voit bien qu'ici, de l'extérieur, c'est vraiment une sorte de simplification commode, on en a besoin pour traiter des textes, mais qui est vraiment d'un d'un vérisme et d'un réalisme de pacotille. Enfin, vous voyez, de l'extérieur, c'est par exemple la description d'un personnage est une description de l'extérieur parce qu'on décrit son aspect physique, et puis la description des pensées, c'est la description de l'intérieur. Enfin, c'est possible, enfin, vous voyez. C'est quand même des approximations qui ne tiennent pas bien la route sur le plan sémiotique et sur le plan linguistique. Surtout, moi, c'est ce qui m'intéresse, parce qu'on sait bien qu'y compris la description d'un personnage, d'abord, elle est vue par quelqu'un, et puis l'extérieur peut faire signe d'un intérieur. Enfin, bon, tout ça renvoie à des débats qui ont eu lieu dans les années 80 autour de focalisation sur, focalisation par, une distinction de focalisateur et focalisé d'un côté, mais je crois que, en tout cas, en termes de source énonciative, il n'y a pas de focalisateur externe. Évidemment, on peut toujours considérer les référents sous leur aspect, sous leur enveloppe extérieure, s'ils en ont une. Deuxième remarque, c'est que j'ai bien insisté sur le fait que beaucoup montraient qu'il y a des points de vue du narrateur, du personnage. Mais à défaut de point de vue du personnage, il y a des points de vue qui sont ceux d'un narrateur, tel que vous les avez par exemple dans page 7, l'exemple 34, ou l'exemple qui y fait suite, donc un exemple de Balzac dans le Père Goriot, la description ressassée de la pension Wauquiez, ou de Dumas dans le collier de la reine. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il y a bien un point de vue du narrateur, et que chez Genette, enfin, il y a vraiment quelque chose de très contestable dans le fait que Genette donne trois définitions successives de la focalisation zéro, c'est-à-dire d'une part absence de focalisation, donc il n'y a pas de point de vue du narrateur, d'autre part, à certains moments, point de vue du narrateur, qui était l'exact contraire, et troisième reformulation, surtout il y revient plutôt dans Genève 83, hein, point de vue du narrateur qui est la somme de tous les points de vue de l'œuvre, c'est-à-dire un phénomène d'omniscience qui provient du fait que le récit va adopter d'abord une focalisation variable sur tel personnage, puis sur tel autre, puis une focalisation externe, puis tel autre, et le tout produit un effet d'omniscience. Todorov, d'ailleurs, l'avait dit très nettement, le récit à focalisation multiple produit un effet d'omniscience. Et pour Genette, ça forme trois définitions différentes, enfin antinomiques, non pas complémentaires, mais antinomiques, et c'est un véritable problème. Je crois qu'il y a un point de vue du narrateur, c'est-à-dire que les mécanismes linguistiques, s'ils indiquent un point de vue, ils fonctionnent, y compris lorsqu'il n'y a pas de personnage saillant, et à partir de ce moment-là, le point de vue est pris en compte par le narrateur. Et c'est l'exemple, donc, évidemment, 34, et l'exemple du texte suivant. Ce que je voudrais dire pour marquer aussi ma différence, c'est que un des réflexes pavloviens de la narratologie consiste à dire que le narrateur est omniscient. Et le narrateur est toujours omniscient. Alors Genette a beau écrire que, évidemment qu'il est omniscient puisqu'il invente tout, mais dans le même temps qu'il n'est pas toujours omniscient, on n'empêche que quand on parle du narrateur, on a vraiment un préconstruit, c'est le narrateur omniscient. Or, le narrateur n'est pas toujours omniscient, on sait bien quand on lit des romans policiers que le narrateur est loin de manifester toujours son omniscience, c'est le suspense. Et donc, bien sûr qu'il y a des cas où le narrateur manifeste une certaine omniscience et une supériorité cognitive sur le personnage, mais encore une fois, alors si on parle d'omniscience, il faut que ce soit manifeste dans le texte. Exemple, page 6, je reviens un peu en arrière, page 6, l'exemple 6, vous voyez, je vous le laisse lire. Alors, je crois, bon, j'ai analysé cet exemple dans la revue Lynx 43. Mais et là, il me semble effectivement fondé de dire qu'on a d'abord un point de vue vraiment perceptuel, mais quasiment perceptuel. Alors ça, c'est bien toute la scénographie hugolienne, hein, du narrateur hugolien. Il y a le petit personnage qui a un petit blanc bec, un petit puceau qui ne connaît pas grand-chose, et puis le narrateur hugolien, ça, c'est la bouche d'ombre qui sait tout. Et donc, évidemment, il y a un point de vue perceptuel d'un jeune homme qui voit, mais qui voit, mais qui ne comprend pas ce qu'il voit. Et puis, il y a le point de vue du narrateur hugolien qui sait et qui comprend bien mieux que ce pauvre jeune homme ce qui lui arrive. Et donc, là, on a une marque d'omniscience. Hein, de la même manière qu'à certains moments, des phénomènes comme des négations, par exemple, indiquent bien que le personnage est dans une situation qui n'autorise pas une perception du personnage. Je m'excuse, alors là, je reviens un peu en arrière, mais vous voyez l'exemple 4, non, pardon, page 4, sous la rubrique « Négation ». Au milieu de la page, page 4, sous la rubrique négation, vous avez un premier exemple. Marie entra dans le bureau du président, mais elle ne remarqua pas, etc. Vous avez le mais, vous avez une négation qui indique que le mouvement perceptuel ne peut pas être effectué par Marie. Donc la négation ici, hein, indique une supériorité cognitive du narrateur. Ça n'est pas le cas de toutes les négations, parce que si vous regardez l'exemple suivant, hein, de Larry Brown, vous verrez qu'il y a une négation à la fin, mais que malgré tout, cette négation, si vous voulez, accompagne le point de vue du personnage, en ce sens que le personnage cherche quelque chose, et ce quelque chose qu'il cherche, il ne le trouve pas. D'accord. Donc, ça n'est pas la négation de l'acte perceptuel, c'est la négation de quelque chose qui était attendu et qui n'est pas trouvé. Donc, omniscience du personnage, oui, quand cette omniscience du narrateur, pardon, quand cette omniscience est manifestée textuellement. De la même manière, il y a un dogme de la narratologie, c'est celui selon lequel la focalisation interne, c'est-à-dire le point de vue du personnage, serait limitée en vertu de considérations ontologiques évidentes. C'est que l'être humain, enfin, on ne voit jamais que la moitié d'une orange, enfin, vous voyez bien tout le discours phénoménologique, enfin, bon. Je crois que, alors, ça se traduit, par exemple, chez Vitou, par l'idée que un focalisateur interne ne peut jamais accéder à un autre focalisé interne. Il ne peut accéder qu'à un focalisé externe. C'est-à-dire, pour le dire d'une autre manière, qu'un personnage ne peut jamais accéder aux pensées d'un autre personnage. C'est le privilège du narrateur. Puis on trouve ça dans la plupart, dans beaucoup de manuels. Or, je crois que c'est quelque chose qui ne résiste pas devant l'examen linguistique des faits. Prenez l'exemple, alors il n'est pas très convaincant, mais l'exemple 30 de la page 6, si vous voulez, il montre déjà que les choses sont assez compliquées, parce que l'exemple 30, c'est un personnage, évidemment, c'est Hercule Poirot, vous allez me dire, il est bien choisi, c'est un personnage démiurge, etc. Mais ce personnage, qui, à la fin du récit, fait une récapitulation et donc joue le rôle de personnage narrateur, donc quand on dit le personnage ne peut pas accéder, il faut quand même prendre en compte aussi le statut, hein, selon que le personnage soit narrateur ou pas, c'est pas la même chose. Et ce personnage reconstruit le drame, il n'y était pas, mais il le reconstruit, il accède aux pensées des personnages. Alors on pourrait toujours objecter, oui, mais c'est parce que c'est un narrateur. Mais non, on pourrait prendre plein d'autres exemples. Je veux dire, il suffit de lire n'importe quel extrait de Sarraute, n'importe quel roman, pour voir que le personnage investigue la psyché des autres personnages. Et au fond, l'argument, il me semble irréfutable, c'est que il n'y a pas de verbe de pensée qui serait dans la langue française réservée à l'instance narratoriale et réservée exclusivement à l'instance narratoriale. C'est-à-dire que les processus psychiques, les verbes qui expriment des processus psychiques peuvent avoir pour sujet un narrateur aussi bien qu'un personnage. Donc l'idée, si vous voulez, que le personnage ne pourrait pas accéder aux pensées me semble fausse, puisque on a une foultitude d'exemples qui prouvent le contraire. Donc le personnage peut accéder aux pensées. Je ne veux pas dire par là que son point de vue serait illimité. Non, il peut accéder aux pensées. Il y a en plus des personnages qui peuvent avoir, de par leurs caractéristiques psychologiques, sociologiques, beaucoup de connaissances, enfin, etc. Et donc, être très savant. Mais la question n'est pas là. Au fond, l'important, c'est de comprendre le débat. Et la thèse sur... l'impossibilité pour le personnage d'accéder aux pensées, et au fond, renvoie à des considérations qui sont à la fois platoniciennes. C'est le mythe du démiurge. Alors, comme on veut faire un narrateur démiurge et toujours démiurge et omniscient, pour qu'il existe bien, on a besoin, par contre-coup, de rendre ces créatures moins savantes qu'elles ne le sont en réalité. Mais le deuxième niveau de l'analyse, c'est que ça renvoie à, au fond, enfin, ça renvoie à une confusion. C'est que ce qui est important d'un point de vue narratologique, c'est la notion de fiducie. Et alors là, c'est autre chose. C'est-à-dire que le personnage, comme le narrateur, peut accéder aux pensées d'autres personnages, mais en revanche, la différence fondamentale, qui n'est pas en termes d'accès ou non aux pensées, elle se situe au niveau de la fiducie. C'est-à-dire qu'effectivement, on va toujours considérer que dans le pacte de croyance généré par l'œuvre, c'est le narrateur, parce que c'est L1, le locuteur premier, qui a le premier et le dernier mot, c'est lui qui est en charge du pacte de croyance et qui entérine ou marque ses distances, et s'il ne le marque pas, entérine comme vrai, enfin ça dépend des valeurs en contexte. Et donc c'est lui le vecteur de la fiducie, parce qu'au fond le personnage n'est jamais certain de savoir ce que pense quel autre personnage. Donc ça c'est une autre donnée fondamentale qui enfin vient encombrer beaucoup de considérations narratologiques et qui me semble absolument dommageable, bien sûr. Il en est une dernière, je vais en mentionner une dernière pour conclure. Alors on voit ça enfin dans des manuels... honorable par ailleurs, et on voit ça, on entend ça dans les cours d'agrègue, enfin, etc. C'est l'idée, point de vue du personnage égale point de vue subjectivant, et point de vue du narrateur égale point de vue objectivant. Et c'est une idée qui est d'ailleurs alimentée aussi par les travaux, par exemple, anglo-américains, qui ne retiennent que deux focalisations, interne, externe, et qui considèrent que le point de vue du narrateur est externe, et d'externe à objectivant, il y a des glissements qu'on pourrait lister hein, dans la littérature, qui sont dommages. Mais si on veut bien considérer que ce qui compte, c'est de rechercher l'origine énonciative, c'est une chose. Et que ensuite, dans la référenciation de ce qui est perçu, pensé, etc., le point de vue peut contenir beaucoup de subjectivem ou au contraire en contenir peu. Alors, à l'évidence, le fait qu'un texte comporte énormément de subjectivem n'est pas l'indice d'une focalisation interne. Ça c'est le réflexe aussi de beaucoup d'étudiants. Hein. Oh, il y a beaucoup de subjectivem, donc c'est une focalisation interne. Non, parce que, voyez, alors, là, c'est page 7 et 8, je vais le dire très rapidement. Page 7 et 8, à partir d'un exemple d'un roman de Michel Rion, qui renvoie... très, très, très classiquement au point de vue du personnage Malone, qui est un policier, un héros policier assez attachant. Donc nous avons une description point de vue du personnage. Et il est clair que je me suis amusé, c'est pour un manuel,
à réécrire ce texte. Le point de vue 1A exprime le point de vue de Malone. C'est un point de vue qui est plus subjectivant que le point de vue 1. Et ces subjectivaines sont très péjoratives. Le point de vue 1B, tout aussi subjectivant, c'est le point de vue de Malone, et cette fois-ci, c'est un point de vue avec des subjectivaines mélioratives. En revanche, le point de vue 1C, ça reste le point de vue de Malone, parce que c'est lui qui est l'énonciateur saillant du contexte, mais si vous voulez comparer avec les trois, avec la version originale, plus les deux réécritures 1A et 1B, c'est un point de vue qui est nettement plus objectivant. Donc, expression objectivante, ça reste malgré tout le point de vue de Malone. Et si vous comparez ce point de vue 1C avec le point de vue 1D, eh bien, vous verrez que ce point de vue 1D est encore plus objectivant. Donc, c'est une question de gradient, mais la fréquence de subjectivem, ou au contraire leur rareté, n'indique en rien, parce que ça relève d'un sujet modal, n'indique en rien que ce soit toujours le point de vue du personnage. Vous allez me dire, jusqu'à présent, c'est le point de vue du personnage. Oui, mais il peut être objectivant comme subjectivant. Et dans les exemples, en revanche, 1E et 1F, si vous regardez, eh bien, vous verrez que c'est un point de vue très subjectivant. Et ce point de vue, c'est le point de vue du narrateur. Parce qu'il y a une négation, notamment, qui est en caractère gras, mais Malone ne fit pas le rapprochement, etc., qui nie l'acte de perception même, et qui, dans ces conditions, indique bien qu'il y a un point de vue, mais comme ça n'est pas l'énonciateur saillant au contexte qui est là, eh bien, ce point de vue renvoie au point de vue du narrateur. Et donc, on peut avoir des points de vue du narrateur, et on sait bien que il y a énormément de narrateurs qui ont des points de vue très subjectivants. Donc, si vous voulez, il me semble que, je terminerai par là, ces questions, si on essaie de regarder l'expression linguistique de la référenciation, permettent vraiment de remettre en cause un certain nombre de représentations de la narratologie genetienne qui l'enserre dans une sorte de gang qui est tout à fait dommageable du point de vue même des meilleurs acquis de la narratologie, parce qu'il y a chez Genette des acquis très importants, mais je ne pense pas que ce soit autour de considérations du point de vue que les choses se passent. Et de proche en proche, il me semble qu'à partir de là, ça permet de revoir ce que Genette dit, qui reste à mon avis intéressant, mais qui doit être réinterrogé à cette onde-là, sur par exemple l'analyse des temps, qui me semble très forte chez Genette, mais en même temps qui peut être sans doute redéfini à travers ses perspectives sur le point de vue. En tout cas, ce que ça dit aussi, c'est que si on essaie d'intégrer ces paramètres énonciatifs de proche en proche, évidemment, là c'est une analyse qui s'intéresse au texte narratif, ça ouvre d'autres passerelles vers une autre question qui est la question de... Bon, non, je ne la mentionne pas, mais je ne fais que l'évoquer au passage, des relations entre le point de vue tel qu'il s'exprime dans le récit et tel qu'il s'exprime ailleurs que dans le récit, notamment dans l'argumentation. Merci.